Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges? Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce dimanche 23 janvier 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Pour parler de Vienne, la patience stratégique de l'Iran touche à sa fin. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, il n'y a pas d'accord provisoire sur l'agenda de l'Iran, déclaration d'une source proche de l'équipe de négociation iranienne. Retour du droit de vote de l'Iran à l'ONU. Et puis le ministère syrien des Affaires étrangères appelle au retrait des forces américaines et turques du nord du pays arabe. C'était les principaux titres que nous allons tous y développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Il n'y a pas d'accord provisoire sur l'agenda de l'Iran, selon une source proche de l'équipe négociatrice iranienne. Une source proche de l'équipe iranienne, participant aux négociations de Vienne pour la levée des sanctions injustes, a démenti les affirmations de la chaîne d'information américaine NBC, selon lesquelles il y a une proposition d'accord temporaire dans ces négociations. La source a souligné qu'un tel accord n'est absolument pas à l'ordre du jour de la République islamique d'Iran. La même source a déclaré dans une déclaration à l'IRNA qu'il n'y a pas d'accord temporaire sur l'agenda de l'Iran et que Téhéran veut un accord permanent sur lequel se baser. Et CNN avait affirmé dans un rapport qu'il a publié aujourd'hui, citant des responsables américains, disant que Moscou, à la connaissance des États-Unis, a soumis une proposition à l'Iran selon laquelle il pourrait, par le biais d'un accord intérimaire, obtenir une levée partielle de l'embargo en échange de l'acceptation de certaines restrictions nucléaires. Ce rapport indiquait, citant deux membres de l'administration du président américain Biden, que l'un des responsables du Congrès, un ancien responsable du gouvernement à Washington, et quatre autres ont prétendu être au courant de cette nouvelle, alors qu'un haut responsable de l'administration Biden a déclaré que les mesures provisoires ne sont pas à l'échelle des principaux enjeux de négociation, toujours selon CNN. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, avait déclaré que d'après les deux projets de levée des sanctions et les mesures qu'on pense asseoir, que nous avons remises aux autres parties, il n'existe pas du tout d'accord graduel ou temporaire. Retour du droit de vote de l'Iran à l'ONU. Majid Tartravanchi, ambassadeur et représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a fait part du retour du droit de vote de l'Iran à l'ONU. L'ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies a confirmé samedi soir que la dette impayée de l'Iran avait été payée aux Nations Unies et que le vote de notre pays devrait naturellement revenir en début de semaine. La Corée du Sud a versé plus de 18 millions de dollars des avoirs bloqués de l'Iran aux Nations Unies en tant qu'arriéré de Téhéran. La République islamique d'Iran, en tant que membre fondateur et actif de l'ONU, s'est toujours engagée à payer ses cotisations à temps et nous l'avons prouvé pratiquement, a ajouté Tartravanchi. Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, nous avons été confrontés au problème du paiement de nos cotisations en raison des sanctions américaines oppressives et unilatérales contre l'Iran, a-t-il noté. L'Iran dispose de plus de 7 milliards de dollars de fonds gelés dans deux banques sud-coréennes, à la Banque industrielle de Corée et Woori Bank, en raison des sanctions américaines. L'actualité régionale avec le Yémen. L'armée yéménite affirme avoir déjoué une attaque majeure de mercenaires soutenus par l'Arabie saoudite dans la province méridionale de Shabwa. Le porte-parole de l'armée, Yahya Sari, a déclaré que les forces yéménites avaient ciblé une base de mercenaires terroristes avec 4 missiles balistiques, leur infligeant de lourdes pertes. Selon le porte-parole, plus de 120 mercenaires ont été tués ou blessés et qu'une douzaine de véhicules blindés ont été détruits au cours de l'opération. Shabwa et la province voisine de Ma'arib ont été les principaux fronts de la guerre menée par les Saoudiens contre le Yémen. L'Arabie saoudite, soutenue par les États-Unis et ses alliés régionaux, a lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015 dans le but de rétablir un régime fantoche et démissionnaire, soutenu par Riyad. Des centaines de civils yéménites, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués dans cette intervention militaire. Direction la Syrie, les forces dirigées par les Kurdes renforcent leur siège sur une prison du nord-est de la Syrie qui, selon elles, abrite des terroristes Daesh. Ils tentent de reprendre le contrôle de la prison suite à une émeute. Tout a commencé jeudi lorsque des assaillants armés ont tendu une embuscade au centre de détention de la ville de Hasaka sous contrôle des forces kurdes dirigées par les États-Unis. L'attaque a fait au moins 70 morts parmi les détenus et plus d'une douzaine d'autres parmi les gardiens selon la source. Mais cela a également aidé environ 90 détenus à s'évader. Ceux qui sont restés ont pu reprendre le contrôle de la prison. Les forces kurdes affirment que les assaillants étaient des terroristes daéchistes qui cherchaient à libérer quelque 12 000 prisonniers détenus dans cette prison. Sachez également que le ministère syrien des Affaires étrangères appelle au retrait des forces américaines et turques du nord du pays arabe. Il a également condamné les morts et les destructions causées par les terroristes Daesh et les soi-disant forces démocratiques syriennes dans la province de Hasaka. Le ministère a accusé les forces américaines ainsi que les terroristes daéchistes et du SDF d'actions qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Damas a appelé les organisations humanitaires internationales, dont l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, à fournir une assistance aux Syriens déplacés. Il a également exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à s'acquitter de ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et de protection des civils sans défense. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Pour parler de Vienne, la patience stratégique de l'Iran touche à sa fin. Malgré quelques progrès dans les pourparlers de Vienne, et alors que certaines questions clés demeurent non réglées, et que les parties occidentales, en particulier les États-Unis, évitent les décisions politiques sous divers prétextes, la patience stratégique de la République islamique d'Iran pour parvenir à un accord final touche à sa fin. Bien que la République islamique d'Iran n'ait pas fixé de date limite pour les négociations, elle soit présente pour parler dans le but de parvenir à un accord final, la poursuite des pourparlers sera confrontée à des défis si les parties adverses ne montrent pas leur volonté de faire avancer les pourparlers dans les jours à venir. Un an après être entré à la Maison-Blanche et avoir condamné les actions unilatérales de l'ancienne administration en se retirant de l'accord entre l'Iran et les 4+1, le gouvernement démocrate de Biden n'a jusqu'à présent pris aucune mesure crédible pour compenser les actes répréhensibles du passé. Il n'a fallu que 3 mois au gouvernement pour transformer l'affirmation de Biden d'un désir de revenir au JCPOA, l'accord nucléaire de 2015. Mais jusqu'à présent, la soi-disant pression maximale et l'approche punitive des pays cherchant à établir les relations commerciales normales avec la République islamique d'Iran n'ont pas changé. Après 6 séries de pourparlers de premier tour qui ont suscité les attentes de la République islamique d'Iran quant à la manière de relancer les accords de 2015, l'Occident a eu l'occasion d'utiliser la 13e administration pour conclure de manière réaliste sur la nécessité d'un retour des États-Unis au JCPOA et accélérer les pourparlers. Cependant, en utilisant la tactique consistant à déterminer le délai et à blâmer l'Iran, ils ont essayé de montrer un temps limité pour parvenir à un accord et, à leur avis, parvenir à un accord plus rapidement. Une autre question qui est alimentée en même temps que les négociations des parties occidentales en faveur de la fixation d'un faux délai est la réduction de l'arriéré nucléaire de l'Iran. Ce concept a été inventé par les Occidentaux pour désigner le temps nécessaire pour accumuler les matières nucléaires nécessaires à la construction d'une bombe soi-disant nucléaire. Ils affirment qu'avec les restrictions imposées à l'accord nucléaire du JCPOA, ce délai avait atteint 1 an. Selon des personnes proches des négociations, c'est une manière dégoûtante pour les parties occidentales qui essaient généralement de faire pression sur leurs adversaires pour gagner plus d'avantages au milieu des négociations et éroder les pourparlers. Mais ils devraient savoir, par expérience, qu'un tel comportement avec l'Iran ne fonctionne pas. Et le jeu du blâme, en particulier de la part de la France, dans laquelle elle possède des compétences particulières, ces derniers mois de la Grande-Bretagne, ne resterait pas sans la réaction de l'Iran. Ce que l'Occident a apparemment oublié, c'est le fait que l'accord nucléaire est vivant grâce à l'approche responsable et autocontrôlée de la République islamique d'Iran, et non pas des États-Unis, qui se sont retirés unilatéralement et illégalement du JCPOA en 2018. En d'autres termes, si les États-Unis et leurs partenaires européens ont oublié, le système international n'a pas oublié les développements des 4 dernières années et il est impératif que Washington adopte une volonté crédible et orientée vers l'action de parvenir à un accord dans les jours qui précèdent la fin de la patience stratégique de l'Iran.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. L'Iran, la Russie et la Chine ont débuté vendredi 21 janvier des exercices navals conjoints dans l'océan Indien visant notamment à renforcer la sécurité commune. Ces manœuvres interviennent alors que le président iranien Ebrahim Raisi vient d'effectuer une visite officielle de 2 jours en Russie pour renforcer les liens entre les 2 pays. Il a notamment annoncé qu'un accord de coopération sur 20 ans sera prochainement signé entre les 2 pays. Il y a quelques jours, l'Iran et la Chine ont également annoncé l'entrée en application d'un accord de partenariat stratégique de 25 ans entre les deux pays. Ainsi, les trois pays renforcent leurs relations et ces manœuvres qui vont durer 3 jours, en effet, marquent ce rapprochement des bâtiments de l'armée et du corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que des navires russes et chinois participent à ces manœuvres les plus importantes organisées entre les deux pays. Il s'agit en effet des troisièmes manœuvres du genre réunissant les navires de guerre et des aéronefs des marines des trois pays. Les premières manœuvres de ceinture de sécurité maritime ont eu lieu en décembre 2019. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de ces manœuvres, la création de cette nouvelle alliance navale et, bien entendu, les répercussions géostratégiques de ces exercices navals hybrides sur le plan régional et international. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Un exercice naval hybride trilatéral baptisé « Ceinture de sécurité maritime 2022 » a débuté vendredi dans le nord de l'océan Indien avec la participation d'unités militaires iraniennes, chinoises et russes. Au cours de cet exercice, des navires de guerre iraniens, russes et chinois ont tiré avec succès sur des cibles navales. Les unités navales iraniennes, chinoises et russes qui s'étaient déplacées vers le site de la mission dans le nord de l'océan Indien ont mené à bien leur mission, a déclaré le contre-amiral Mostafa Tajeddin, porte-parole iranien de l'exercice naval hybride. À ce stade de l'exercice militaire, les unités navales participantes sino-russo-iraniennes, sous le commandement du destroyer iranien Jamaran, ont tiré sur des cibles de surface prédéterminées en mer à l'aide d'armes de calibre 20 mm, a-t-il ajouté. À l'étape suivante de l'exercice Photo-X, la disposition offensive des unités participant à l'exercice a été réalisée en fonction des menaces dans la région, a poursuivi le contre-amiral, soulignant que la présence de la République islamique d'Iran dans les eaux internationales indique une position et un statut élevé du pays sur la scène internationale. Tajeddini a déclaré que le rétablissement de la sécurité régionale et internationale est très important pour l'Iran et que pour cette raison même, la marine du pays ne permettra jamais la concrétisation d'une quelconque menace dans le secteur maritime. L'Iran, la Chine et la Russie sont-ils sur le point de créer une alliance navale propre à contrer les tentatives US-OTAN-Israël à insécuriser les voies navigables de la région? Après tout le gros de la piraterie de mer ou d'attaques anti-navires marchands sont commis dans le golfe d'Aden, entre le golfe Persique, l'océan Indien et la mer Rouge. Et on sait que ces attaques préméditées font partie d'une stratégie US-Israël qui vise à imposer une forme de sanction navale de facto à la fois à l'Iran et à la résistance, à la Chine mais aussi à la Russie. En effet, aussi bien la Chine que la Russie sont en pleine friction navale avec le clan US à la fois en mer de Chine, en Méditerranée orientale, en mer Noire. A rappeler que l'Iran vient de finaliser un pacte stratégique de 25 ans avec la Chine. Le président Raisi vient d'effectuer une visite officielle de 2 jours en Russie pour sceller les liens stratégiques.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Paris avec Philippe Hugon, journaliste de guerre et reporter de guerre et journaliste, et depuis Moscou avec Fabrice Boer, expert pour l'ONG EOD. Monsieur Boer, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être dans votre émission.
Comme vous le savez, les manœuvres baptisées Ceinture de sécurité maritime 2022 ont débuté vendredi dans le nord de l'océan Indien. des unités maritimes et aériennes des marines des trois pays, à savoir l'Iran, la Russie et la Chine, participent à ces exercices navals hybrides. Une première question pour commencer, Monsieur Baer, quelle est l'importance stratégique de ces manœuvres navales?
Bon, déjà, il faut rappeler que ce ne sont pas les premières. Mmh. Il y a déjà eu, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans déjà, il y a eu des manœuvres conjointes entre ces trois flottes, à savoir chinoise, russe et iranienne. Mais aujourd'hui, évidemment, ça prend un autre tournant, puisque le développement de l'actualité, le développement du mouvement tectonique des plaques géopolitiques fait que ça prend une autre tournure, en particulier avec le bruit que nous avons, ou je dis bien du bruit entre guillemets, que nous avons autour de la question ukrainienne. Et donc, aujourd'hui, cela marque qu'en fait, il y a plusieurs éléments, puisque vous avez la Russie qui a décidé depuis un certain nombre d'années de revenir sur la scène internationale, non point pour retrouver la puissance de l'URSS, mais pour se repositionner en tant que puissance internationale afin de mieux faire, de mieux défendre ses intérêts, a développé un programme pour reconstruire une flotte. Une flotte qui doit pouvoir être sur tous les océans du monde. En cela, on peut comprendre les accords que la Russie a fait, par exemple, avec le Malabo, en Guinée équatoriale, en Afrique, et Syrie et d'autres pays, et en particulier l'accord aujourd'hui qu'elle fait, votre pays, l'Iran, et avec la Chine, puisque nous sommes bien aujourd'hui dans un... C'est très symbolique, d'ailleurs, dans un... de nouveau deux blocs. Nous avons bien le bloc occidental d'un côté et un nouveau bloc de l'Est qu'on peut aussi qualifier de bloc eurasien avec comme pays principal évidemment la Chine, la Russie et l'Iran. L'Iran aujourd'hui qui fait partie intégrante de ce bloc eurasien et on le voit bien avec les accords que vous avez précisés, les accords que la marine, pas que la marine d'ailleurs, que l'Iran a fait avec la Chine et que l'Iran fait également avec la Russie et que la Russie fait également de manière plus pragmatique avec entre la Russie et la Chine. Nous voyons bien qu'il y a aujourd'hui des intérêts convergents et ces intérêts convergents, ce sont la stabilisation dans les régions, en particulier principalement justement sur cette zone commerciale très importante pour la Chine, mais également justement la voie d'échange commercial de l'Iran et la Russie, c'est pour appuyer son retour au Proche-Orient. Donc nous avons, pour terminer dessus, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire, nous avons aujourd'hui dans ces manœuvres une symbolique qui n'est que répétée du renforcement du bloc eurasien face au bloc occidentale qui continue sa politique de déstabilisation. Et pourquoi elle continue sa politique de déstabilisation? Puisque principalement, ce sont l'impérialisme américain. Ils savent très bien aujourd'hui qu'ils sont dans une position de roi qui peut être déchu et qui est très contestée et que pour ce faire, il a besoin de se reconcentrer. C'est pourquoi, vous voyez, les États-Unis sont partis d'Afghanistan, pas parce qu'ils avaient perdu, parce qu'ils se reconcentrent ailleurs. Et face à cela, nous avons donc aujourd'hui ce renouveau, on va dire, un peu agressif. On voit l'OTAN en Europe et on voit également en Asie du Nord-Est avec la politique américaine contre la Chine et bien évidemment avec le Proche-Orient qui, en fait, est très important, non seulement évidemment pour votre pays, c'est une évidence, mais si le Proche-Orient retombe évidemment dans le chaos, c'est toute l'Asie centrale qui peut effectivement revenir dans le chaos et ça met en péril ce bloc eurasiatique avec ses nouvelles routes de la soie. Nous avons beaucoup d'éléments énergétiques, commerciaux, géostratégiques et de reconfiguration du monde, ce monde multipolaire, et c'est cela qui est en train de se jouer, et ces manœuvres font partie de ces instruments qui sont mis en œuvre pour, d'un point de vue intérieur, renforcer ces accords, renforcer ce bloc eurasien, et démontrer évidemment qu'on ne restera pas lettre morte face aux agissements du bloc occidental dont Israël fait partie pour le Proche-Orient.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Baer. On va tout de suite rejoindre à Paris Philippe Hugon, reporter de guerre et journaliste. Monsieur Hugon, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci à vous et bonjour à votre invité.
Monsieur Baer a rappelé les intérêts convergents, en effet, de la Chine, de la Russie et de l'Iran, ces trois membres, principaux membres du bloc eurasien. L'importance, en effet, des manœuvres conjointes qui sont en cours actuellement dans le nord de l'océan Indien pour le commerce maritime, pour lutter, en effet, contre les agissements hostiles et déstabilisateurs du bloc occidental. Et justement, ces manœuvres interviennent au lendemain de la visite du président Raïsi en Russie et presque une semaine après l'entrée en application de l'accord de partenariat stratégique de 25 ans entre l'Iran et la Chine. D'abord, que pensez-vous du timing de ces manœuvres qui marquent, comme l'a précisé M. Baer, un nouveau tournant dans les relations entre les trois pays? Et deuxièmement, de quelle mesure ces manœuvres pourraient contrer ces agissements, cette politique, ces manœuvres de déstabilisation des pays occidentaux à leur tête des États-Unis, notamment en ce qui concerne justement alors cette tentative d'insécuriser les voies navigables de la région?
Oui, alors avant de parler de ce tournant, je pense qu'il faut rappeler que depuis l'effondrement du bloc de l'Est, les Américains et plus globalement les Occidentaux avaient un peu pris l'habitude de faire ce qu'ils désiraient, puisque la Russie était devenue inexistante, la Chine était inexistante. Donc il y avait une sorte d'hégémonie en politique étrangère de la part des États-Unis, avec le soutien bien sûr du monde occidental. Alors ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que la Russie a retrouvé une position beaucoup plus forte, beaucoup plus stable. Quant à la Chine, elle est devenue la première puissance économique mondiale, sachant par exemple que toutes les banques occidentales sont en faillite financière, que notre industrie est totalement moribonde aujourd'hui, qu'on a un taux de chômage qui explose de partout, que ce soit aux États-Unis ou dans toute l'Europe. Donc nous ne sommes plus en position de force pour imposer quoi que ce soit. Donc je trouve qu'il est assez normal aujourd'hui qu'il y ait des accords passés entre la Russie, la Chine, l'Iran, la Syrie, ce qui est pour l'équilibre du monde, pour l'équilibre de la paix, vraiment un point vraiment très très positif. Donc je dirais qu'aujourd'hui on assiste à un nouveau découpage des forces en présence, hein, puisqu'il y a maintenant à nouveau un groupe, je dirais, comme le disait votre invité, un groupe qui est plus centré sur l'Asie, qui devient je dirais, la première puissance financière et militaire de la planète. Ce que, bien sûr, l'Union européenne et les États-Unis ont énormément de mal à tolérer et à accepter cette nouvelle donnée du problème, cette nouvelle équation. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, je trouve tout à fait normal de voir des puissances comme la Russie, la Chine et l'Iran intervenir dans des manœuvres militaires. Qu'est-ce que font l'Union européenne et les États-Unis conjointement? Ils organisent régulièrement des exercices militaires et personne ne trouve rien à redire à ces exercices. Donc je trouve un petit peu déplacé de la part du monde occidental de vouloir de critiquer et de condamner des manœuvres militaires que je trouve tout à fait normales. Je pense que la période colonialiste est passée, la période de domination du monde par un seul pays, c'est une époque révolue, et je pense que c'est une nouvelle donne et il faut que les États-Unis acceptent maintenant, et l'Union européenne également, acceptent cette nouvelle donnée des problèmes. On n'est plus dans les années 80 ou 90 où il y avait cette hégémonie du monde occidental et qui imposait un grand nombre de décisions au niveau politique international. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et je trouve tout à fait normal que ces pays passent des accords à la fois économiques mais militaires afin de faire face à l'Union européenne et aux États-Unis qui veulent continuer d'imposer cette politique. Je pense qu'on a pris dans le monde occidental de très mauvaises habitudes et qu'il faut maintenant composer avec cette nouvelle équation, avec cette nouvelle donne et trouver des solutions de partenariat. Donc je trouve tout à fait normal ces alliances, qu'elles soient militaires, économiques, financières, entre ces pays afin de retrouver retrouver une certaine stabilité.
Merci pour ces précisions, M. Hugon, restez avec nous. M. Bohr, donc, face à cette nouvelle donne, à cette nouvelle équation, alors, à quoi il faudrait s'attendre de la part des pays occidentaux? En d'autres termes, quelles seront les répercussions géostratégiques de ce nouveau rapprochement, de ce tournant, comme vous disiez tout à l'heure, sur le plan régional et international, d'autant plus que, bien sûr, les agissements hostiles et déstabilisateurs du bloc occidental vont se poursuivre.
D'un point de vue géostratégique, notez que la puissance américaine, c'est sa facilité de projection de par le monde, et elle le peut grâce essentiellement à sa marine. La marine américaine, la flotte américaine, la flotte militaire américaine est la première du monde, c'est un fait. Mais aujourd'hui, elle est contestée par la marine chinoise, et elle est contestée, et de plus en plus, par la marine iranienne dans votre région, et même au-delà, et par la marine russe, la flotte russe, qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène également. Il n'est pas question, la Chine c'est une autre histoire, mais il n'est pas question pour la Russie de faire une course aux armements. Il s'agit simplement d'avoir les moyens d'être présent dans tous les points où elle pense que la chose est nécessaire. Et lorsque vous combinez ces forces, de la Russie, de la Chine et de l'Iran, je parle évidemment ici de la question que nous débattons, à savoir des flottes militaires. Nous avons effectivement aujourd'hui, non pas simplement dans les déclarations, mais dans les faits, dans les moyens, la puissance de remettre en cause cette hégémonie, puisque c'est en contrôlant les flux commerciaux, les lignes commerciales, que les États-Unis veulent évidemment continuer à contrôler le monde. Ce pourquoi les nouvelles routes de la soie qui passent par les voies terrestres leur posent problème, et que la voie maritime du Nord leur pose également problème, puisqu'elle est sous total contrôle de la Russie. Et donc nous avons aujourd'hui effectivement aussi cette contestation dans l'océan Indien, puisqu'il y a effectivement aussi une contestation essentiellement dans l'océan Pacifique face à la Chine, mais en mer de Chine, mais dans l'océan Indien, puisque je rappellerai que la marine iranienne aujourd'hui va jusqu'à Madagascar. Ils ont des accords, la marine iranienne a des accords avec Madagascar. Ce n'est pas un hasard que juste après, il y a eu une tentative d'assassinat, d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, nous voyons bien aujourd'hui une forme de répartition des rôles, et que où nous voyons la Chine, qui pendant très longtemps, effectivement, n'avait pas eu tellement de géopolitique, depuis un certain temps, aujourd'hui, est passée à une autre phase où elle se réaffirme, et on la voit, et c'est très bien ainsi. Ce qui, un peu, on va dire, d'une manière, dans le même tempo que la Russie aujourd'hui, avec 2014, avec le coup d'État de Maïdan, où c'était là le but d'ailleurs des Américains, c'était de prendre le port de Sévastopol pour justement anéantir la marine russe. C'était ça le véritable objectif. Et donc aujourd'hui, on voit bien que les puissances continentales regroupées au sein de ce bloc eurasien avec les trois pôles, donc Téhéran, Moscou et Beijing, on voit bien aujourd'hui qu'elles vont également sur le terrain américain, à savoir la mer, contester justement ces outils, la flotte de cette puissance thalassocratique. C'est comme ça que Rome a vaincu Carthage, faut-il le rappeler. Je pense qu'il y a un peu de un clin d'œil histoire. Ce clin d'œil aujourd'hui, il se base sur des faits et en cela, on voit effectivement que lorsque on appuie ou il faut appuyer, comme actuellement la Russie, qui pose un ultimatum à l'OTAN par rapport à la situation ukrainienne, et on voit toute un peu, on va dire, des fois même la folie de certains médias de l'OTAN où on crie à U et à Dia sur la guerre qui arrive. En fait, on voit bien qu'ils ont peur, parce que en fait, en face d'eux aujourd'hui, ils ont du répondant. En face d'eux, ils ont des puissances qui, ensemble, posent des exigences. Et ces exigences ne sont pas des exigences territoriales, ces exigences sont des exigences de stabilité, sont des exigences de revenir, en fait, au monde tant
pourtant indiqué par le monde occidental, c'est-à-dire le droit international, puisque le droit international est violé constamment par les États-Unis et par l'Europe, avec les arrestations de diplomates, par exemple. Et donc nous avons aujourd'hui ce pôle eurasien qui montre sa force, non pas pour l'utiliser, mais pour faire venir à la table des négociations afin de créer véritablement ce monde multipolaire. Maintenant, il faut toujours passer par cette phase. À titre personnel, je ne crois pas que les États-Unis veulent ces négociations pour la simple et bonne raison qu'ils savent très bien que le système, que le rêve américain, comme ils disent, qui n'existe plus tellement aux États-Unis d'ailleurs, se base simplement sur le parasitisme du monde. C'est le monde qui doit payer le déficit des États-Unis. Et donc nous avons aujourd'hui nous sommes dans une phase où ce bloc eurasien, je termine dessus, ce bloc eurasien se renforce d'un point de vue solidaire afin de faire capoter cette volonté de guerre qu'a les États-Unis, puisque rappelons, et c'est vraiment mon mot de la fin, les États-Unis ont toujours vécu en guerre et les guerres ont toujours été profitables jusqu'à présent aux États-Unis. Eux n'ont pas peur de la guerre, bien évidemment, puisqu'elle est généralement faite chez les autres pays. C'est pour ça que les Européens n'ont aucun intérêt à suivre cette politique. Et leur seul intérêt, c'est de saisir la main de ce bloc eurasiatique afin de construire un nouveau monde, un véritable monde eurasien, sans les États-Unis, qui sont jusqu'à présent qu'une politique parasitaire et qui n'amène que la guerre.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Hugon. M. Hugon, donc aujourd'hui, le bloc eurasien se renforce et justement ces exercices maritimes, une démonstration de force, et montre également que ces trois pays, l'Iran, la Chine et la Russie, en effet, sont aptes à former, ont peut-être déjà formé une alliance navale. Et la question qui se pose, M. Hugon, dans quelle mesure justement cette alliance navale pourrait non seulement contester, mais contrer les agissements hostiles et déstabilisateurs de l'axe États-Unis, Israël et OTAN?
Oui, ben il est clair qu'aujourd'hui, les États-Unis ont de gros problèmes logistiques, dus principalement d'ailleurs à leur situation financière. Donc c'est vrai qu'ils essayent par tous les moyens d'entraîner l'Europe dans leur folie diplomatique et leur folie de guerre. Et ça, je dois dire que les États-Unis aujourd'hui sont dans une telle situation, et comme le rappelait très bien votre invité, ils n'existent que par la guerre. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on arrive à une situation extrêmement tendue où, justement, cette alliance entre la Chine, la Russie, l'Iran essaye d'apporter une stabilité en Orient, en Asie, et la stabilité, quelque part, est un peu contestée par le monde occidental qui voit en cette stabilité les problèmes que vont apporter cette stabilité. Car aujourd'hui, le monde occidental n'a plus les moyens de pouvoir se développer sur des bases saines. Et comme le disait votre invité, et il a tout à fait raison, c'est la déstabilisation qui apporte leur continuité de système. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une situation délicate. Et je dois rappeler cet exemple qui m'avait vraiment surpris et qui était en 1979. Donc on avait eu bien sûr ce premier choc pétrolier. Et les fabricants de voitures américaines continuaient de fabriquer de très gros moteurs V8, alors qu'en Europe, on commençait à fabriquer de petits moteurs. Je trouve que c'est bien révélateur de la société américaine. Ce sont des gens qui ne veulent pas changer leur mode de vie et qui ne veulent absolument pas s'adapter aux nouvelles donnes. Donc ils sont prêts quelque part à faire crever un certain nombre de pays de façon à ce qu'eux puissent continuer à vivre comme ils le souhaitent.
Merci.
Et comme ils le désirent. Donc ça pose un véritable problème aujourd'hui.
Philippe Hugon, reporter de guerre et journaliste depuis Paris. Fabrice Soir, expert pour l'ONG depuis Moscou. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci. Au
revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Afrique dénonce les atermoiements dans la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Un groupe de pays africains représentant ce continent dans les négociations en vue d'une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU a qualifié les négociations sur ce sujet de longues et fastidieuses, car certains pays développés sont déterminés à maintenir le statu quo. Le comité des 10, également connu sous l'abréviation de CEDIS, qui regroupe le Kenya, la Guinée équatoriale, la République du Congo, la Namibie, la Zambie, la Libye, l'Algérie, le Sierra Leone, le Sénégal et l'Ouganda, se réunit à Kampala pour passer en revue les progrès réalisés. David John Francis, ministre Sierra Leone des Affaires étrangères et coordinateur du CEDIS, a déclaré que l'Afrique est restée déterminée malgré tous ses détracteurs à faire valoir sa position, réclamant deux représentants permanents plus deux États africains en tant que représentants non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Plus de 70% des questions débattues au sein du Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Pourtant, ceux de ce continent n'y est pas représenté, a fait valoir M. Francis lors de cette réunion organisée par le président ougandais Yoweri Museveni. Nous sommes en quête de justice. Notre détermination a été testée. Nous sommes restés résolus et résilients, a déclaré M. Francis, appelant tous les pays africains à continuer de parler d'une seule voix et à rester engagé au consensus des Ulvinis et à la déclaration de Sirte. Ces deux accords soutiennent la position commune de l'Afrique qui consiste à réclamer deux représentants permanents et deux représentants non permanents au sein du Conseil de sécurité. Bankol Adeyeye, commissaire de l'Union africaine pour les affaires politiques, la paix et la sécurité, a estimé que cette réunion de Kampala offrait une fenêtre d'opportunité pour relancer la campagne du continent en vue d'accélérer le processus de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de cette réunion, M. Adeyeye a déclaré que l'Union africaine réclamait un véritable partenariat qui démontre la foi dans le multilatéralisme, en particulier au sein de l'ONU. L'Afrique doit maintenir son cap. L'Afrique ne doit pas mollir dans le processus de longue haleine de réforme, a-t-il déclaré. Le président Museveni a déclaré que la communauté internationale ne devait pas considérer les réformes demandées par l'Afrique au sein du Conseil de sécurité comme une faveur, mais comme un droit. L'Afrique doit avoir des membres permanents au sein du Conseil de sécurité pour s'assurer que ses intérêts sont pris en compte, a déclaré le dirigeant ougandais. L'ONU, sous sa forme actuelle, ne reflète pas les réalités actuelles, mais plutôt celles des années suivant la Seconde Guerre mondiale. Nous devons être présents au Conseil de sécurité pour veiller à ce qu'il ne soit pas utilisé de manière négative contre l'Afrique, a-t-il conclu. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné que l'armée algérienne est une armée pacifique mais qui défend farouchement l'Algérie, menaçant ceux qui traquent la sécurité du pays en disant « malheur à ceux qui attaqueront l'Algérie ». Les propos de M. Tebboune interviennent lors d'un discours prononcé hier au siège du ministère de la Défense nationale à l'ensemble des commandements des forces des régions militaires, des grandes unités et des écoles supérieures. Le président algérien a souligné que le commentaire politique de la liberté d'expression était garanti, mais dans le cadre du respect, car ceux-ci n'ont aucune relation avec l'invective, la diffusion de mensonges et les tentatives visant à faire plier l'État au moyen de méthodes tordues. Une démarche poursuit le président algérien à laquelle s'ajoute le non-recours de l'Algérie à l'endettement extérieur qui pourrait hypothéquer notre souveraineté, la liberté de non-décision et notre liberté à défendre les causes justes dans le monde, dont à leur tête le Sahara occidental et la Palestine. Au niveau économique, le président Tebboune a rappelé que les jeunes Algériens ont créé près de 10 000 micro-entreprises en 2021, qualifiant cette jeunesse de génération des entreprises qui ne connaît ni surfacturation ni corruption. Le Mali remet en cause les accords de défense avec la France. Paris réagit. La France a bien reçu une demande du Mali de renégocier ses accords bilatéraux de défense et l'examinera. La bruyère diplomatique entre Bamako et Paris reste vive, le premier ministre malien de transition affirmant que les accords sont déséquilibrés alors que la France se désengage progressivement du Sahel. Le climat entre Paris et Bamako reste délétère. La France a confirmé avoir reçu une demande du Mali de renégociation des accords bilatéraux de défense. Nous avons reçu une telle demande, nous l'examinerons avec un responsable du ministère français des Affaires étrangères lors d'un point de presse le 18 janvier sans donner plus de détails. Le 15 janvier, le premier ministre malien de transition avait critiqué le bilan de l'intervention militaire française dont le pays avait évoqué l'intention de remettre en cause les accords bilatéraux. Nous voulons relire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France, lance-t-il dans une interview avec l'ORTM, Télévision nationale. Un centre régional de fabrication de vaccins contre la COVID-19 sera construit au Sénégal. L'Institut Pasteur de Dakar et la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies des CEPI basés en Norvège ont signé un accord de partenariat visant à faire avancer le projet de construction au Sénégal d'un centre régional de fabrication de vaccins contre la COVID-19, une initiative dénommée Madiba, a rapporté l'agence de presse sénégalaise APS. L'objectif de ce protocole d'entente est de faire avancer le projet Madiba de l'Institut Pasteur de Dakar, un centre régional de fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d'autres vaccins à Dakar. Dans sa phase initiale, la nouvelle installation modulaire de l'Institut Pasteur de ce projet, Madiba de l'Institut Pasteur de Dakar et IPD, fabriquera chaque année jusqu'à 300 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 qui seront utilisées en Afrique. L'IPD est sur la bonne voie pour commencer la production de vaccins au troisième trimestre de 2022, d'après la même source. La mise en place d'une telle unité de fabrication de vaccins est le fruit d'un partenariat entre le Sénégal, l'Union européenne, les États-Unis ainsi que d'autres partenaires comme la Banque mondiale. Sur la base de cet accord, la CEPI fournira un soutien stratégique et technique au projet Madiba de l'IPET pour faire progresser le développement de la fabrication de vaccins et leur livraison en Afrique. La CEPI fournira également des conseils sur la mise en œuvre d'une solution novatrice de remplissage et d'administration des vaccins homologués et développés avec le financement et le soutien de la CEPI. dit-il. Il s'agit d'une technologie innovante pour accélérer la production et la livraison de vaccins. L'IPD a choisi cette nouvelle technologie pour accélérer le développement de ses capacités de production de vaccins et faciliter l'administration rapide de vaccins en Afrique, fait valoir la même source. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.